Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
C'est parti pour le numéro 605 d'Invino BFM. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec un menu qui, comme d'habitude, prêche la consommation modérée et responsable. L'Alsace côté Pinot Noir, nous en parlerons. Un nouveau club privé dédié au vin à Londres, le vignoble de Géorgie, l'amour du vin en 5 points, et non pas 4, hein, les modes de consommation du whisky, le rôle d'une étiquette, est-ce que ça fait vendre ou pas. Et puis bien sûr, nous aborderons toute l'actualité mondiale des vins et spiritueux en présence de Célia Guéquière, Pascal Chevalier, Philippe Forbrac, David Cobol. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Célia, on débute par l'agenda du vin en commençant par Paris.
Oui, alors dans l'actualité du vin cette semaine, pour les estivants parisiens, samedi 16 juillet, mais aussi le samedi 13 août, faites votre vin en scène au cours d'une croisière dégustation. À l'heure de l'apéritif, embarquez pour 2 heures de croisière à travers Paris, pendant laquelle vous dégusterez 3 cépages et assemblerez vous-même votre vin. À la fin de cette croisière, vous repartirez avec le vin que vous aurez créé. Un léger snacking composé de charcuterie viendra agrémenter votre dégustation. Départ à 19h du port de l'Arsenal, métro Bastille. Durée 2h, tarif 43€ par personne. Pour réserver, www.canorama.net.
C'est sympa ça, David, hein?
Oui, c'est sympa, c'est pas cher, mais charcuterie au mois d'août, je sais pas.
Oh, David Cobol. Attention, vous redevenez anglais, hein. Alors, Montrichard, qu'est-ce qui se passe, Célia, du côté de Montrichard?
Alors, le salon Bulle au Centre aura lieu le dimanche 17 juillet dans les caves du Donjon, rue Porte du Roi, à Montrichard, dans la vallée du Cher. C'est le premier salon dédié aux pétillants naturels. Et pour sa 3e édition, chacun présentera une cuvée tranquille. Vous pourrez déguster des vins de partout en France, au pied d'un donjon presque millénaire qui offre une fraîcheur optimale. Pour plus d'informations, bulle.au.centre@orange.fr.
Et enfin, Gigondas, nous quittons la Loire pour la vallée du Rhône.
Oui, c'est dans le cadre de la semaine de la gastronomie, Gigondas sur table organise le lundi 18 juillet de 19h à 23h une animation destinée aux amateurs de vin et de gastronomie. Les vignerons de l'AOC présenteront leur cuvée en accord mets et vins grâce aux plats cuisinés par 4 des plus grands chefs de la région. Le tout articulé autour de préparations fines. Attention, la réservation préalable est indispensable. Tarif 50€ par adulte et 12€ pour les enfants de moins de 12 ans. Plus d'informations sur gigondas-20.com.
Merci beaucoup Célia. Philippe Forbrac, vous qui êtes notamment meilleur sommelier du monde, un commentaire sur le millésime 1969. Est-ce qu'il vous sied celui-ci?
Me sied, ça dépend où je m'assied finalement.
Oui.
Il me sied mieux en Bourgogne ou en Champagne, mais oui, vous rigolez, mais c'est la vérité, parce que c'est quand même très, très contrasté ce millésime. Où c'était plutôt une belle année, considérée même comme un très grand millésime en Bourgogne. Finalement, l'été a été relativement sec, presque un peu trop, puis il y a eu une bonne pluie juste au début des vendanges qui a rassuré un peu tout le monde.
Ça, c'est une bonne chose qui peut un peu.
Ça dépend des moments, mais quand c'est une petite pluie et qui est surtout la pourriture grise, la fameuse pourriture qui est l'inverse de la noble, ne se développe pas, alors pour le coup, c'est plutôt bienvenu. Et c'est ce qui s'est passé en Bourgogne, d'une façon générale, sur l'est de la France. J'ai des souvenirs du Châtelain du Pape 69 qui était tout à fait remarquable, de Grand Champagne également dans ce millésime. Par contre, côté ouest, ça a été un peu compliqué, parce que là aussi, l'été était plutôt bien. Jusqu'au début du vendange, très bien. Sauf que ça n'a pas été une petite pluie, mais une très grosse pluie.
Une grosse pluie, quoi. Ouais.
Et 206 mm d'eau en quelques jours en septembre. Enfin, autant vous dire que c'était une catastrophe. Et que malheureusement, les raisins étaient délavés, les vins étaient acides, ça n'a pas donné beaucoup d'intérêt.
C'est triste, hein.
Et d'ailleurs, 68, qui était déjà une légende de pauvreté qualitative, 69 a réitéré, ce qui fait quand même un doublé historique, quasiment, pour la vie de Bordelais.
Allez, Philippe, est-ce qu'il y a quelques people sympas qui sont nés en 1969?
Quelques très jolies jeunes femmes, qui prennent chaque année un an de plus, mais néanmoins, Jennifer Addison, Jennifer Lopez, par exemple, Catherine Zeta-John, mais qui ont tout le mérite quand même de bien
porter. Bien conservé quand même, hein, meilleur que le millésime quand même.
Côté voix masculine, Patrick Fiori, par exemple, MC Solar, dans un registre un peu différent. Et puis, on l'a beaucoup entendu ces derniers temps, avec le championnat d'Europe, mais Vicente Liezarazu également.
69 aussi. Vous avez Christian Persson ou pas dans
comme Cédric Pauline, et puis également notre invité du jour.
Christian Persson, le président du Malise. Bonjour Christian.
Bonjour.
Vous avez déjà goûté un vin de 69? Non, jamais, quoi.
En tout cas, pas avec ce luxe de détails. Hein.
Appelez Philippe en bas, si jamais vous en trouvez une bouteille, quand même, avant. Alors, votre premier job, vous étiez à la fois conseiller à la NPE, c'est l'ancêtre de Pôle emploi, et directeur d'un journal coréen. Racontez-nous.
Oui, c'est difficile de faire la synthèse, mais pendant tout mon temps libre, quand j'étais conseiller à l'Agence pour l'emploi, je m'occupais d'interviewer des ministres français et même le conseiller du président de la République de Corée du Sud. Je me rappelle en 1999, le conseiller de Kim Dae-jung que j'ai interviewé à Séoul. Et en même temps, je travaillais à accompagner des personnes au chômage pour qu'elles retrouvent un nouveau poste.
Oui, donc c'était le grand écart, si je puis dire quoi. Vous allez créer votre première entreprise du Mali en 2008. Pourquoi créer ? C'était une farouche envie de devenir indépendant ? Mm-hmm.
C'est en décembre 2008. En fait, j'ai été au chômage à cette époque-là parce que j'avais souhaité quitter le poste que j'occupais comme consultant à l'APEC. Donc j'avais rejoint le monde du portage salarial. Je suis resté 6 mois demandeur d'emploi pendant lequel j'ai créé ce projet d'entreprise. Et en décembre 2008, j'étais lauréat du réseau Entreprendre et j'ai lancé donc la création du Malis.
Humalis. Et là, au départ, il n'y avait pas de clients. Quoi. Alors, comment on fait quand on a très envie, mais pas de clients ?
Voilà, ben, là, je me suis retrouvé finalement dans la situation des personnes que j'ai accompagnées pour beaucoup, je pense, avec un certain succès pendant pratiquement 15 ans. Donc, c'était moi, maintenant, qui était en situation de recherche d'emploi et là, donc, de création d'une entreprise. Donc, vous êtes seul pendant 6 mois. Vous savez que 15 mois plus tard, vous n'aurez plus droit à rien. Donc, vous créez votre entreprise et vous avez un peu le dos au mur. Il faut que ça marche.
Vous allez à l'église, vous priez, quoi, quelque part, non ?
Ben, en tout cas, il faut avoir la foi.
Oui.
En tout cas,
voilà, on se bouge les fesses. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, donc, ça tourne très bien, autour de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Votre métier, donc, c'est 100% du portage, c'est ça ?
Voilà, c'est-à-dire que Humalis, c'est une société de portage salarial qui s'est un petit peu concentrée sur un public d'ingénieurs. Aujourd'hui, on a pratiquement 200 qui font un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et j'ai le projet qui est en cours actuellement d'acheter une société de services en informatique.
Parce que pour l'instant, justement, c'est SS2I, ça représente quoi, 50% de chiffre d'affaires ?
Pour le moment, absolument pas. C'est-à-dire que pour le moment, c'est 100% portage salarial, mais à plus long terme, dans la mesure où...
Mais dans vos clients finaux, vous bossez également avec
exactement,
eux ?
Exactement. Oui. C'est-à-dire que notre clientèle, ça peut être la Banque de France, c'est des boîtes du CAC 40, des PME, beaucoup de SS2I et certains grands comptes en direct.
Christian, en personne, on parle beaucoup de réforme du code du travail, ce serpent de mer, vous y croyez ? Ou on sera toute notre vie avec 854 kilos de code du travail par page ?
Je suis un peu provocateur, je l'ai dit plusieurs fois sur différentes antennes, mais je pense que le chômage en France est en grande partie une construction artificielle. Hein, c'est provocateur, je l'entends, mais je pense que c'est le résultat, un peu comme à l'époque de l'Union soviétique, on crée de la pénurie, donc on a organisé cette situation de pénurie sans s'en rendre compte en fait, hein, sur une période de 30-40 ans, on a mis en place les conditions d'une pénurie d'offres d'emploi, alors que le travail, il est quasiment infini.
Mmh. On est aussi très proche du sport, avec une récente acquisition d'un site qui a une résonance mondiale.
Exactement, et ça j'en suis très fier, parce que on a déjà réussi a lancé un journal en ligne qui s'appelle cœurdefoot.fr qui est référencé par l'UEFA sur le foot féminin. C'est un des premiers sites de foot féminin en France auquel je crois beaucoup, comme Jean-Michel Aulas d'ailleurs qui nous connaît, qui nous suit. Et donc je viens d'acheter un site sur l'Afrique de l'Ouest basé à Lomé au Togo avec une équipe de journalistes togolais et qui fait un travail remarquable puisqu'ils ont environ 4 millions de visiteurs.
Bon, on va aller le voir. Comment il s'appelle le site ?
Alors il s'agit d'AfricaTopSport.com.
Alors je sais que vous écoutez Christian chaque week-end il est au BFM à Paris sur 96.4. Il paraît que quand vous étiez un peu plus jeune, vous avez réalisé les vendanges. Pas trop mal au rhum ?
Exactement. Franchement, c'est difficile.
Parce qu'elle est basse la vigne, ouais. Au début, on se rend. Enfin, sauf si c'est les vignes hautes, mais.
Franchement, même pour des ados sportifs que nous étions, on était 4 amis, on est allés dans la région de Mâcon. Je peux vraiment vous dire, oui, effectivement, c'est difficile.
Célia, vous avez fait les vendanges ou pas ?
Oui, j'ai fait l'épamprage.
D'accord.
Dans le Bordelais, ouais. Et alors, je pense que c'est pareil que les vendanges, parce qu'il faut aller couper en fait les premiers nœuds en mars-avril, les premiers bourgeons, pour que le bon bourgeon prenne. Et je peux vous dire que ça casse le dos.
David Cobol, ouais. Bon, c'est crevant, faut le dire. C'est sympa, mais c'est fatigant.
Ah non, j'ai la même expérience que vous. Enfin, la même région, le Mâconnais, effectivement, chez Jean-Marie Guffens, c'était en 1986. Année où il pleuvait beaucoup, il fallait tout de même se lever à 5 heures du matin pour démarrer très tôt. Ouf. Et ensuite, nous, les deux qui travaillaient déjà dans le vin, mais d'autres qui ne travaillaient pas, on était au pressoir le soir, et pressoir à cliquer. Donc les journées c'était étaient longues, c'était absolument cassant.
Essayez les vendanges en pays catalan à Bagnoul-sur-Mer, vous allez
en
voir
plus, comme ça. En plus, c'était des vignes basses. terrain glissant. Le meilleur moment de la journée, c'était le casse-croûte le matin.
Oui, et puis petit bisou aux Suédois, c'était avec vous, David Cobol, l'année maintenant. Bon, alors, vous confirmez, Christian Persson, que les Coréens du Sud aiment le vin français, et aimaient à l'époque, en tout cas.
Passionnément. Alors, je peux vous dire que les vins français ont un succès incroyable à Séoul, à toutes les tables des dirigeants, des grands Samsung, LG, Hyundai, Daewoo. Vous pouvez être sûr qu'on boit du vin de chez nous.
Et vous avez une filiale en Tunisie. Vous avez déjà dégusté les vins de ce beau pays ?
Alors, oui. En Tunisie, ils sont très fiers, et avec raison, d'un vin qui s'appelle le Vieux Magon, qui est vraiment de grande qualité. Donc,
Eric a un petit commentaire sur le dernier millésime des vins tunisiens, peut-être. Vous pourriez peut-être
ça fait un bail que je n'ai pas goûté.
Vous parlez de cette région. Philippe, vous êtes le meilleur sommelier du monde, donc vous avez forcément un avis sur le vin de Suresnes ou le vin tunisien, quand même, non ?
Sur le dernier millésime, il y a une certaine stabilité de millésime, franchement. Mais ouais. Par contre, au niveau des vignobles, effectivement. Le Magon est une bonne adresse. Le domaine Saint-Augustin est un domaine aussi dont on parle beaucoup. Et puis, il y a une presqu'île qui est la presqu'île de Kélibia, sur laquelle il y a un muscat célèbre, le fameux muscat de Kélibia, dont les Tunisiens, avec raison, adorent, notamment avec leurs desserts qui sont un petit peu sucrés, mais tellement bons.
Question Persson, vous adorez les bulles, notamment celles de Champagne. Vous avez une maison favorite, peut-être ?
Oui, je ne suis pas un grand expert, mais Tétinger, c'est un petit peu notre.
C'est une très belle maison, ne vous inquiétez pas. Et enfin, pour terminer, vous êtes plutôt cognac, armagnac, whisky, calvados ou tisane ? Attention à la réponse, c'est important, tout le monde s'est à devenir toute rouge là.
Attention. Oh, whisky, bien sûr.
Évidemment.
Mais bien sûr, évidemment. Évidemment. Et si elle n'est pas là, vous dites toujours
comment,
whisky.
Comment résister ?
Vous n'avez pas la tisane, vous ?
Bah, un petit peu quand même de temps en temps,
ouais, pour se remettre quoi. Avec modération toujours aussi,
petite verveine.
Merci beaucoup Christian Persson. Le site internet, donc du site du sport, et puis après Humali, c'est quoi les deux sites d'adresse?
Africa Top Sport, donc ça c'est sur le sport africain, et Cœur de Foot, donc le site de foot féminin.
Merci beaucoup Christian, le dynamique président d'Humali. Nous marquons une première pause et ensuite on tourne chez Nicolas Paris pour parler de whisky justement et du pinot noir d'Alsace.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour au bar à vin, restaurant Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Célia Guéquier, qui est de la maison du whisky, qui s'intéresse au mode de consommation du whisky. Il y a beaucoup de modes de consommation, Célia, ou pas ?
Oui, alors actuellement, on peut vraiment consommer son whisky sous toutes les formes. Mais effectivement, il faut déjà découvrir le whisky. Et la découverte du whisky passe par la dégustation du whisky assez académique, qui va se faire dans un verre, avec un ventre, avec un col resserré, en prenant son temps. Donc on va faire appel à tous nos sens, comme dans la dégustation du vin. On va faire regarder la robe du whisky, comment il se répand dans le verre, les reflets qu'il va pouvoir envoyer.
On peut tourner le whisky ou pas ?
On peut faire tourner le whisky, il faut juste éviter de vraiment l'agiter. Mais on peut faire tourner le whisky.
Pascal Chevalier, vous aimez le whisky ou pas ?
Je suis totalement débutant, donc j'écoute avec beaucoup d'attention.
Ouais. C'est vrai que ça mérite d'être écouté.
Ouais.
Et ensuite, on va passer, après la vue, on va passer vraiment à l'organe central de la dégustation, qui est le nez, aussi dans les spiritueux. On va vraiment beaucoup nauser, ce qui est un anglicisme. Ouais. On va utiliser ce
nose, David.
On pourrait dire naser, pour
ou
franciser
naser,
un peu.
C'est un peu plus français, effectivement.
Ou naser.
Donc le nez, c'est à la fois... sentir le whisky dans le verre, mais aussi faire communiquer le nez et le palais lors de la dégustation, pour vraiment avoir une dégustation, on va dire, 360. On va aussi faire intervenir le toucher. Donc la texture du whisky va être intéressante. On va avoir une texture très légère pour des whiskies peut-être un peu plus jeunes, un peu plus légers, une texture plus grasse sur les whiskies américains, les bourbons, qui sont issus de maïs. Donc il va avoir vraiment... ça va nous donner des informations pour décortiquer et découvrir ce whisky. Mais ensuite... la consommation du whisky, c'est avant tout du plaisir, de la convivialité. Donc la dégustation académique, c'est bien d'en parler et de savoir le faire.
David Cobol, qui n'est pas très académique d'ailleurs, David.
Est-ce que vous conseillez de déguster pur ou diluer avec de l'eau très pure?
Une goutte d'eau seulement, quand même.
C'est une très bonne question.
J'attends l'expert.
C'est une très bonne question. Lorsqu'on déguste à la maison du whisky, on déguste d'abord pur, mais ensuite on rajoute un petit peu d'eau. Parce que l'eau va apaiser en fait le feu de l'alcool, le côté très vaporeux de l'alcool, et va permettre d'ouvrir certains arômes un peu plus légers, un peu plus fruités, qui ne se révèlent pas au premier abord, et permettre de vraiment aller plus profondément dans la dégustation.
Philippe Aubrac,
la question sur l'eau, la question sur l'air. Est-ce qu'il faut faire rentrer un peu d'air comme dans le vin quand on déguste un spiritueux tel que le whisky, ou au contraire, il faut éviter?
Je ne sais pas pourquoi, mais si vous êtes très motivé par Célia. Ben, allons-y alors, Célia. Qu'est-ce qu'on fait avec l'air?
Eh bien, l'air est déconseillé lorsqu'on déguste des spiritueux parce que, en fait, on a un alcool fort qui a plus de 40 degrés. Et lorsqu'on fait rentrer de l'air, on va agiter ces molécules d'alcool et brûler les papilles.
On anesthésie
ainsi,
un peu trop les papilles.
On va anesthésier. Donc, on va déguster la bouche fermée.
Il ne faut pas trop volatiliser.
Mais il est intéressant de faire passer le whisky dans l'intégralité de la bouche pour vraiment le ressentir dans l'ensemble du palais, la langue, etc.
Donc ça... Ensuite, les modes de consommation.
Ensuite, donc, pour le plaisir et la convivialité, on va pouvoir parfois le choisir de le déguster sur glace. Je ne recommande pas de déguster sur glace si on veut découvrir un whisky, mais après, pour le plaisir, personne n'empêche personne de boire son whisky comme il l'entend.
Et de mettre de l'eau dans le vin, par exemple, rosé, n'est-ce pas?
Voilà, tout à fait, on fait ce qu'on veut.
Surtout le rosé de Provence.
Il faut savoir qu'il y a une catégorie de whisky qui est un peu plus recommandée sur glace, qui est le bourbon ou les whiskies américains. Pourquoi? Parce que ces whiskies-là sont plus gras, plus sucrés, et ils tiennent très bien à la glace. La dilution apportée et le côté un peu figeant du froid ne va pas abîmer les saveurs et les sensations qu'on va avoir. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est comme ça qu'on boit les bourbons et les rails en général, quand on les boit secs, voilà, enfin secs on the rocks. On va aussi pouvoir donc explorer le Japon avec des whiskies qu'on appelle des long drinks, qui sont des mizuwari, qui est le nom japonais, ou en anglais highball, qui est en fait le mélange pur et simple de une mesure de whisky avec deux mesures d'eau pétillante sur glace. C'est un peu comme le whisky Perrier. Et c'est la façon ultra majoritaire de consommer son whisky au Japon.
Philippe Forbach, parce qu'on parle de Sauternes Perrier, et maintenant on parle aussi de whisky Perrier.
Whisky Perrier, le whisky a toujours été quand même utilisé comme base de cocktail.
Tout à fait.
Notamment pour les long drinks. Ma question portait plutôt sur le Japon. J'ai entendu dire que finalement, devant le succès croissant des whiskies japonais, on était presque dans une période de pénurie du whisky japonais. Qu'est-ce qu'il en est?
Il en est qu'effectivement, on note actuellement, depuis à peu près un an, une baisse de stock dans les distilleries japonaises. Tout cela vient du réveil un petit peu du marché japonais sur les single malt, qui sont des whiskies un petit peu plus qualitatifs que les blended malt ou les blends que boivent d'habitude les japonais en highball, parce que ce sont des whiskies un petit peu plus faciles à boire en cocktail. Mais ils se sont réveillés, ils se sont rendus compte qu'il y avait de très beaux single malt qui étaient faits sur leur territoire, et ils ont commencé à en acheter, à collectionner, et c'est pour ça qu'actuellement, on est dans une période où il y a beaucoup moins de stock en whisky japonais.
Très bien. Mm-hmm. Ensuite.
Ensuite, donc là, on a fait un petit peu les États-Unis, le Japon. Il va y avoir aussi toute la mouvance de la mixologie, ou des bars à cocktails, ou des cocktails en général.
Ça marche très bien, ça se développe toujours.
Ouais, ça se développe toujours. C'est vraiment de mieux en mieux, c'est beaucoup plus structuré. On a des très beaux mixologistes, des grands bartenders partout dans le monde, même dans des pays un petit peu plus. Sur lesquels on ne soupçonnerait pas qu'il y ait de beaux bartenders.
Par exemple,
j'ai rencontré un bartender de Géorgie qui a gagné la demi-finale du Perfect Serve pour whisky japonais Nika, et que j'ai accompagné au Japon. Donc on était très contents. Voilà. Et donc toute cette scène de cocktail, on pourrait se dire le cocktail c'est un petit peu plus le rhum, la vodka, le gin. Non, le whisky marche très très bien en cocktail. On peut faire plein de cocktails, même avec du whisky tourbé.
Lesquels, par exemple, vous nous conseillez quelques cocktails sympas?
Alors, oui, bien sûr.
À déguster dès que Pascal Chevalier nous aura invités chez lui.
Alors, mes préférés pour le whisky, je vous avoue, et en plus, ce sont des cocktails faciles à faire, c'est le Old Fashioned, donc qui est en fait un whisky ancien. C'est un short drink, donc c'est un cocktail assez court avec du glaçon. Le Manhattan, le Vieux Carré, qui sont à peu près tous dans la même mouvance. Donc, c'est une dose de whisky avec du vermouth ou du bitter, quelque chose qui va donner un peu plus d'amertume et une couleur un petit peu plus rouge, de la glace. Et là, on peut rajouter soit du sirop de sucre ou du sucre et mélanger le tout juste à la cuillère dans le verre. Et ça fait un cocktail génial qui est un petit peu un sec, mais qui a pas mal de sucre, donc c'est facile à boire. Le cocktail au whisky tourbé s'appelle la pénicilline.
La pénicilline,
voilà.
Ça donne envie.
C'est marrant
ça,
comme
oui.
Nom.
David Cobol,
je suis très très déçu. Vous n'avez pas parlé une seconde des modes de consommation dans le pays d'origine du whisky, qui est l'Écosse.
C'est vrai.
Où on le boit avec de la bière. Un chaser, un verre de bière, un verre de whisky, côte à côte.
Quel pays sauvage quand même, non je plaisante.
En Écosse, il y a deux façons de boire son whisky, soit à côté avec une bière, donc un petit verre à shot et une bière, soit on le boit net, mais avec un petit pichet d'eau. Les Écossais
Non, ça va être formidable.
Avec de l'eau.
Plus, ça les aime beaucoup.
C'est formidable.
Moi, j'ai une expérience avec le marché chinois.
Avec une
je vais en parler aujourd'hui. Non, mais le marché chinois est un marché qui se développe aussi pour le whisky. Oui. C'est vrai que les spiritueux français, notamment le cognac en tête, est toujours le vent en poupe, mais les whisky. Et j'ai vécu récemment une expérience. Alors, en Écosse, c'est bière et whisky. Et finalement, les Chinois aiment bien vin et whisky. Quoi. C'est-à-dire qu'ils prennent des grands vins. Mmh. Et puis, entre deux grands vins, ils prennent un verre de whisky et plutôt du bon whisky. Là, c'était un Balvenie 21 ans, par exemple, mais avec de la glace entre deux grands vins. Donc, c'est, pour nous, c'est un peu frustrant de constater qu'effectivement, ils se font plaisir comme ça, mais il faut respecter aussi leur mode de consommation.
Ouais, comme tout à fait. En fait, d'autres habitudes. Il faut savoir que les Japonais boivent leur whisky en highball, mais pendant les repas. Et les spiritueux sont bu pendant les repas par les Asiatiques en général.
Merci beaucoup, Célia, qu'on peut retrouver matin, midi et soir à la maison du whisky, directement. Didier BFM, on trouve notre meilleur sommelier du monde à nous, puis on le garde jalousement, là, Philippe Forbach, pour une petite balade en Alsace, mais version Pinot Noir.
Oui, j'ai eu envie de parler de Pinot Noir, parce que je trouve que dans cette saison, j'aime bien le Pinot Noir, et encore peut-être, j'apprécie plus en cette saison estivale le Pinot Noir d'Alsace plutôt que les Pinot Noir d'autres régions. Ils ont ce côté frais, fringant, plutôt assez désaltérant, mais pas que. Et c'est vrai que David Cobon nous en avait parlé il y a quelque temps de ce fameux Pinot Noir, parler du cépage et sa spécificité un petit peu des fois alsacienne, avec des Pinot Noir de grande qualité nés sur des grands terroirs. Et finalement, il est un peu injuste que ce cépage, dont on évoque aujourd'hui la présence avec un certain enthousiasme ou une certaine distance parfois, en pensant que c'est une mode un peu actuelle, mais finalement, c'est un cépage qui est importé depuis très longtemps. À l'époque, en Alsace, il y avait plus d'une quarantaine de cépages utilisés habilement et intensément, le Pinot Noir figurant en très bonne place. Et donc, c'est plus récemment qu'il a un peu disparu. Et il est assez logique qu'aujourd'hui, on en reparle. Ce qu'on évoque comme Pinot Noir d'Alsace aujourd'hui, qui représente certes un petit pourcentage, c'est moins de 10%, hein, même pas, du vignoble d'Alsace, qui est quand même un gros vignoble de blanc, dans lequel le Riesling, notamment, le Pinot Blanc, le Gewürz, un petit peu le Muscat et le Sylvaner, sont les vedettes. Mais néanmoins, il y a des terroirs ou des communes qui ont une tradition d'élaboration de Pinot Noir qui sont réputées depuis très longtemps. Au Trotte, par exemple, Saint-Léonard, Bœche, Saint-Hippolyte, Malernheim, par exemple, sont souvent associés à leur légendaire Pinot Noir. Alors la difficulté pour le consommateur, c'est que derrière le Pinot Noir d'Alsace, finalement, il y a toute une gamme. On peut avoir des vins très clairs, à la limite du rosé, et même carrément vinifié en rosé, d'autres vinifiés en clairé, c'est-à-dire un peu intermédiaire. On a souvent évoqué la différence entre les deux styles de vin assez légers. Et puis des rouges tendres, plutôt fruités, dans lequel le côté framboisé, la dimension un peu cerise, etc., est là, est plutôt aérienne. Et puis il y a des pinots noirs plus denses, sur des terroirs qui se prêtent davantage, des types de sols avec des argilos calcaires, par exemple, ou des marnes, qui permettent d'avoir une concentration supérieure et qui permettent à ces pinots noirs dégustés à l'aveugle, vinifiés, entre guillemets, à la bourguignonne, parce qu'il y a toujours le modèle de référence. N'oublions pas que le pinot noir, c'est quand même le grand cépage de la Bourgogne, de Champagne aussi, d'ailleurs, puisqu'il représente un tiers du vignoble champenois.
Et d'Allemagne.
Et d'Allemagne.
Et d'Oregon.
Et d'Oregon, exactement. Il y a quelques grands pinot noirs dans le monde. Il y en a même en Nouvelle-Zélande qui sont aussi réputés pour leur qualité. Mais pour revenir à l'Alsace, ces vignerons et ces terroirs qui aujourd'hui essaient de revendiquer, on l'avait d'ailleurs évoqué ensemble avec David, cette notion de grand cru, parce qu'il est assez illogique quelque part. En faisant des très grands vins qui peuvent rivaliser dans des dégustations à l'aveugle avec des grands bourgognes rouges, finalement, que ces vins ne puissent pas accéder à ce statut un peu plus valorisant de grands crus. Et un certain nombre de vignerons, je pense à René Muret, Zinnenbrecht, Deiss, Hugel, Fritsch, ou Blanc, etc., ou même Ostertag, font des vins qui, franchement,
sont de bonne facture.
Valent exactement.
Vous aimez, Pascal, les pinots noirs, ou c'est à découvrir peut-être en Alsace pour vous?
Non, alors j'aime bien. Je suis pas encore un grand connaisseur parce que j'ai pas eu encore la chance d'en déguster beaucoup, mais vraiment j'aime bien. Oui.
Voilà, c'est en plus un vin qui est assez accessible. Alors en prix, il y a tous les prix. Hein. Il y a 7-8 euros dans des caves coopératives, des pinots noirs qui sont sympathiques et à boire plutôt jeunes et frais, et jusqu'à peut-être quelques dizaines d'euros quand même, hein, pour ceux qui travaillent le mieux. Mais franchement,
ça est beau.
Voilà, même à 30 euros, si c'est bon, c'est bon, et on chine pas à payer ça. En termes d'accord, j'ai déjà cité les vignerons, donc je vais pas y revenir. En termes d'accord, mes vins, moi j'adore par exemple des petites cailles rôties au raisin, ça fonctionne vraiment très bien. Certains fromages également. Alors si on n'est pas amateur, de Gewürztraminer sur les grands fromages d'Alsace. On peut se faire plaisir avec un pinot noir.
Bah, un Münster quand même, fondages. Parce que Münster, ça cartonne. Hein.
Oui, mais on n'est pas obligé de mettre du cumin dessus. On peut mettre un peu de confiture de cerise, par exemple, et ça fonctionne plutôt pas mal. Et puis avec les grands plats d'origine française que sont la paella, par exemple, le couscous. Donc, quand, même les, quand on cite les grands,
paella,
les grands classiques de ça, ben franchement, vous faites un
vous
pinot
noir. Content
dans
la,
peut-être pas sur les grands crus, mais sur un milieu de gamme, c'est vraiment un vrai plaisir.
Merci beaucoup, couscous, paella, pinot noir d'Alsace, le triptyque.
On va éviter le cassoulet pour cet été quand même.
Merci Philippe Herbrac. Nous marquons une pause pour les infos, puis ensuite retour chez Nicolas à Paris pour parler de l'amour du vin en 5 points, et pas 6, et du vignoble de Géorgie.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour au bar à vin restaurant Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Pascal Chevalier, le président de ReWorld Media, qui n'est pas là pour nous parler de sa belle entreprise qui tutoie les 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais de son amour pour le vin, de sa vision du vin. En 5 points, Pascal.
En 5 points, j'aurais probablement pu en faire beaucoup plus, mais déjà, c'est assez ambitieux en 5 points. Pour moi, le vin, c'est vraiment une passion, vous l'avez compris. Alors, j'essaie toujours de parler de l'amour du vin. Et quand j'essaie de parler du vin, je dis toujours, il faut le boire, le voir, l'acheter, le vivre et le comprendre. C'est un peu les quelques mots.
On peut aussi le vendre.
Ah oui, alors, exactement. Alors, de l'autre cas, moi, je l'achète finalement parce que.
Là, c'est le côté consommateur averti, hein, David. Ouais.
On peut le faire aussi.
On peut le faire. Ouais.
Alors c'est un vrai travail, c'est très compliqué. Pour le coup, je préfère vraiment le domaine de l'internet qui finalement c'est beaucoup plus facile quand même. Pour les 5 points, on pourrait parler de l'amour du vin. Alors je suis tombé amoureux d'un vin que j'avais déjà dégusté il y a quelques temps, qui est plutôt un vin cette fois haut de gamme, qui est un Corton Charlemagne de la maison Bouchard, père et fils, 100% chardonnay. J'ai eu la chance de le déguster là en 2007, 2010, 2011. Et c'est vraiment un vin que je trouve parfait.
Les trois millésimes sont bien, Pascal ?
Alors, pour moi, les trois millésimes étaient parfaits. Et je trouve que ce vin est extrêmement régulier dans chacune des années. Et à chaque fois que j'ai l'occasion d'en boire, à chaque fois, je me dis, ce vin est incroyable. Et même quand je le compare avec les Cortons Charlemagne des autres maisons. Donc là, c'est une déclaration d'amour pour ce vin. Je suis amoureux.
La cave du mois.
Alors, la cave du mois, là, c'est plutôt un clin d'œil. C'est très marrant. J'ai eu l'occasion d'aller chez Emmanuel Renault au Flocon de Sel à Megève. Et pour les garçons, lorsque vous descendez dans les toilettes, eh bien, vous allez à l'urinoir et vous avez une fenêtre qui donne sur la cave à vin. Et finalement, donc, vous passez un temps incroyable
chic.
À regarder la cave à vin.
J'ai pissé dans la cave.
Qui est vraiment super parce que tout est magnifique avec ce petit hublot, on voit tout. Une cave très longue avec une quantité de vin superbe, une collection de chartreuses incroyable. Et finalement, vous passez beaucoup plus de temps que ce pourquoi vous êtes venu. Et au bout de 10 minutes, vous dites bon, bah, faut que j'y aille quand même. Parce que...
Est-ce que ça augmente la consommation par la suite?
Alors, je ne sais pas, mais vraiment, c'est l'image est formidable. Ça. Formidable. Donc, je conseille.
Non, c'est vrai que quand on descend sous sol du flocon de sel, on a du mal à remonter parce que entre l'acte, les toilettes qui sont géniales, c'est vrai en plus, on peut se brosser les dents, enfin, il y a tout ce qu'il faut. La vue sur la cave qui est juste. Fascinante. En plus, il a créé un petit boulodrome en bas où on peut jouer à la pétanque dans la cave et avec un bar à chartreuse avec une collection de tarragones juste
incroyable. On remonte jamais, quoi.
Donc, quand les gens descendent aux toilettes, ils sont très méfiants chez eux là-bas. Et malheureusement, ils disent allez chercher la table 2, s'il vous plaît.
Le site ou l'application du bois?
Alors, pareil, en tant que consommateur, j'adore essayer un peu les différents sites parce que je trouve que c'est une façon de trouver une collection de vins souvent un peu plus large et on essaie de trouver un peu des affaires ou du moins des bonnes étiquettes, des bonnes années à des prix abordables. Et donc là, depuis quelques temps, j'aime bien un site qui s'appelle idealwine.com.
Idealwine, oui.
Voilà, qui est plutôt un site dans lequel on peut faire des enchères, mais on peut également acheter en direct. Et sincèrement, depuis maintenant quelques années que j'ai la chance de trouver des vins sur ce site, j'en ai jamais eu qui étaient des bouteilles cassées. Enfin, cassées,
mais le vin passé, etc. Des bouteilles d'occasion, on peut dire? Mmh. Ou ouais. Alors c'est
plutôt des particuliers, si je crois bien, et des restaurants qui viennent en fait ici revendre quelque part des surplus de stock qu'ils ont ou parce qu'ils ont besoin de liquidités, etc. Et donc, on a la chance vraiment de trouver des bonnes étiquettes dans des vieilles années.
Et donc pas trop déception parce que parfois on trouve vraiment tout et n'importe quoi en vente aux enchères avec des vins qui ont passé à peu près 3 siècles près du chauffage. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc il n'y a pas que des bonnes bouteilles, quoi.
Non, je crois qu'Ideal Wine fait très très attention à la provenance de ces bouteilles. J'ai un ami aussi qui achète beaucoup Ideal Wine. Aussi, il a très rarement eu de moindre problème.
Très bien. On trouve également ce whisky d'occasion ou pas généralement dans les ventes aux enchères, Célia?
Oui, alors il y a beaucoup de sites spécialisés dans les reventes et les ventes aux enchères de whisky. Il faut encore plus se méfier que dans le vin parce qu'il y a peu ou pas de contrôle et c'est assez nouveau en fait la collection.
D'accord.
De whisky et les revendus.
Il peut y avoir des faux,
oui, des faux aussi.
Il peut y avoir des faux et ça coûte beaucoup plus. Enfin, ça coûte très très cher.
Et vous, Pascal Chevalier, en général, donc au niveau des prix, vous dites que Ideal Wine c'est très bien, au niveau des prix raisonnables, donc on est au bon prix vers le marché, quoi.
C'est, je parle de 20 à quelques, plusieurs centaines d'euros.
Oui.
Mais vraiment, des fois, on trouve.
On parle
des
vins de collection.
Hein. Ouais, on trouve vraiment de tout et vraiment des prix intéressants.
Très bien. La visite du mois.
Alors, la visite du mois, là, c'est pareil, j'aime bien des coups de cœur comme ça. Donc, partant de Beaune, où j'adore quand même cet endroit, après avoir revu les hospices de Beaune avec toutes ces tuiles vernissées, là, c'est assez magnifique. Je repars pour prendre l'autoroute, remonte à Paris, et on va un petit tour vers le village d'Alloz-Corton, et on voit ce petit château tout en haut, que j'ai eu la chance de visiter, donc qui s'appelle maintenant le château Corton C, qui était avant le château Corton André, qui a été repris par la maison Frey, je crois, là.
Bravo.
On peut travailler. Qui possède la lagune, et puis Paul Jaboulet, enfin, ouais, etc. Donc, plutôt une bonne maison. Donc, le château est magnifique, donc je vous conseille d'aller le visiter. Et puis, les vins sont vraiment de qualité également. Donc, voilà.
Si vous êtes dans ce coin-là, faites un tour à Savigny-les-Beaune, où il y a un château assez étonnant, avec un musée de voitures et de motos et d'avions. C'est-à-dire que vous voyez, c'est assez hallucinant, un parc d'avions de chasse au milieu des vignes. C'est une chose complètement surréaliste.
C'est super, ça.
Et la collection de motos est fabuleuse. Il y a de toutes les époques, surtout les années 50.
Et si c'est dans la région, vous allez voir la table d'hôte d'Olivier Lefebvre aussi, dans la grande région.
Oui, ben là, c'est plus aussi. Non, il y a plein de choses à faire. Beaune, c'est une ville magnifique. Magnifique.
À découvrir. Et enfin, pour terminer, Pascal, donc, le passionné du mois, c'est qui pour vous?
Allez, dans le passionné du mois, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un que je connais bien, qui était un journaliste, qui est toujours d'ailleurs Patrick Chen, qui s'est mis à faire du vin. Et donc, sincèrement, je l'ai dégusté. Donc, Domaine d'Embrun.
Et donc, mais est-ce qu'il est bon? Parce que lui, il le dit, mais c'est normal, Patrick, il parle beaucoup. Est-ce que le vin est vraiment bon?
Il n'est pas là, donc on peut en profiter.
Exactement.
Sincèrement, je l'ai dégusté et je ne lui ai rien dit. Je suis plutôt quelqu'un de discret. J'ai goûté et je lui ai dit, écoute, franchement, ton vin est parfait. Je trouve que son vin, il est rond, il est équilibré, il se boit bien. Enfin, c'est vraiment un vin.
De quelle région, donc, vous dites, hein?
Alors, c'est du Mont de Ventoux. Il est au pied du Mont de Ventoux, là.
Ah oui.
Et vraiment, il a fait un super vin.
Donc, plutôt en rouge, hein.
Ouais, plutôt en rouge.
Plutôt en rouge,
oui.
Philippe.
Je confirme, parce que j'ai eu l'occasion de le goûter et même d'aller visiter son chai qui vient d'inaugurer il y a quelques jours. C'est Jérôme Bressy, auquel il faut rendre hommage aussi, qui est le vigneron du coin, qui s'occupe avec lui de la vigne, et en tout cas, qui le conseille. Donc, il y a toute une démarche vraiment qualitative. Il a récupéré du côté de Caron, il est entre Caron et Clion-le-Brave, donc sur cette partie
et
du
Doin,
qui est juste génial, pas très loin de Carpentras.
Il faut aller le voir.
Et le 2014, c'est son premier millésime, c'est très bon. Et le 2015, encore mieux né, puisque les vendanges étaient vraiment très belles, et d'autant plus intéressant, donc vraiment à suivre.
Bon, bravo, belle reconversion en tout cas, hein, super journaliste avec un super vigneron.
Et tout à fait abordable, je crois qu'on va être à 20 euros la bouteille.
Oui, 20 euros la bouteille,
en prix public. Vraiment, c'est super.
Il faut se dépêcher parce qu'il va augmenter, Patrick. Allez, merci Pascal Chevalier.
Merci.
Vino BFM, on retrouve maintenant David Cobold, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, pour la saison 2 de son voyage en Géorgie.
Oui, j'ai raccourci un peu mon sujet sur la Géorgie, parce qu'il y a beaucoup à dire, après, avec 8000 ans d'histoire de vin, c'est quand même conséquent. Alors, même si on peut, les Arméniens ou les Azerbaïdjanais disputent l'origine du vin, les Géorgiens quand même sont
ils sont bien placés.
Alors, je vais vous parler de l'actualité, pas de l'histoire. La Géorgie est un petit pays, mais très organisé sur le plan viticole, puisqu'ils ont déposé 18 appellations, avec un cahier de charge assez précis pour chaque appellation. J'ai des exemples ici. Chaque cahier de charge fait 8-10 pages. Pour ces 18 appellations. Elles sont très concentrées dans l'est du pays, qui est la partie que j'ai visitée, qui s'appelle la Kakhétie. La Kakhétie, c'est juste à l'est de Tbilissi. Vous avez à peu près 2 heures de route depuis Tbilissi à travers les montagnes. On est entre 2 rangées de montagnes, les Caucases au nord et d'autres rangées au sud, et traversée par une rivière qui s'appelle l'Alazami. Et l'Alazami court en gros d'est en ouest et traverse plusieurs zones. Alors la Kakhétie concentre 10 appellations parmi les 18 de la Géorgie. Je vais vous en parler de 2 en particulier, et ensuite je vais vous parler de 3 cépages, parce qu'il y a, comme je l'ai dit là, il y a 15 jours à peu près, 540 cépages identifiés en Géorgie. C'est beaucoup plus que tout autre pays au monde, et c'est plus de 2 fois plus que ce qu'on a en France. Alors évidemment, on n'utilise pas tous les cépages, ou très peu, elles sont très minoritaires, mais il y a des cépages qui sont dominantes. Je vais vous parler par exemple du Separavi, qui est le grand cépage rouge, qu'on peut comparer un peu au Cabernet Sauvignon sur le plan du profil gustatif, c'est-à-dire que c'est rouge et très coloré, la peau est très très foncée. À la différence du Cabernet Sauvignon, son jus est très légèrement rose, hein, donc c'est un peu coloré à l'intérieur, ce qui est assez rare. Et puis, il a beaucoup de tanins et beaucoup d'acidité, ce qui est très utile dans un pays chaud, parce que la Géorgie, globalement, c'est un pays chaud. Les hivers sont un peu rudes, dans les Caucases, il y a beaucoup de neige, mais les étés sont chaudes, donc il faut un cépage à maturité tardive pour conserver de l'acidité, pour se concentrer bien en saveur. Et les exemples que moi j'ai goûtés, je trouve que c'est un cépage vraiment très intéressant et à mettre au niveau potentiel avec avec les Cabernet Sauvignon.
De l'élégance, de la rondeur, un peu comme les Géorgiens quand ils jouent au rugby, quoi.
Alors, l'élégance et de la rondeur, c'est un peu comme si vous disiez que Gorgozzi était un joueur élégant et ont de la rondeur. Non, c'est quand même des choses mastoc et il faut les apprivoiser. Mais quand ils sont bien vinifiés, ils peuvent être remarquables de finesse. Alors, on les vinifie de deux manières. La manière moderne, c'est la plupart des vins, et encore un peu, marginalement, de la manière traditionnelle, dans ces amphores enterrées, qu'on appelle les crèveries, qui sont des amphores en terre cuite, enterrées dans le sol, et on met tout dedans, on ferme, et on espère que ça se passe bien. Alors, parfois, ça se passe bien, parfois un peu moins bien. Ça, c'est la manière traditionnelle. Le résultat est qu'on ne sait jamais si la fermentation est complétée, parce que c'est absolument pas contrôlé. Donc, parfois, vous avez du rouge sucré éthanique, parfois, vous avez du rouge sec éthanique, parfois, vous avez du blanc. Et le blanc est toujours tannique parce qu'on met les peaux dedans. Donc, c'est un style de vinification très, très particulier, les cuivrés. On en parle beaucoup, mais ça représente très, très peu en volume par rapport à l'ensemble de la production. Mais c'est intéressant. Et tous les vignobles modernes que j'ai visités ont leur petite maison de cuivrés qu'ils ont reconstruit et avec un contrôle un peu plus moderne pour éviter des bactéries et des problèmes comme ça.
Philippe Orbach.
Oui, il y a même des vignerons dans la Loire qui ont acheté ces cuivrés.
Oui.
Sur de grandes amphores en terre cuite.
Ben, ça devient la mode un peu partout.
Qui, exactement. Hein. Ils font des essais parce que ça peut renforcer le caractère identitaire sûrement des vins produits.
David Cabot.
Alors, je vais vous parler donc maintenant d'une appellation en blanc. Alors, l'appellation type, ce qui est très compliqué en Géorgie, c'est que souvent une appellation est ou rouge et blanc, ou rouge seul, ou blanc seul, on ne sait jamais. Par exemple, l'appellation dont je vais vous parler, le Tsinandali, est une appellation entièrement en blanc sec, avec deux cépages majoritaires qui sont le Tsavzane.
Tsavzane, vous dites.
Le Mutsvane.
Ah, ça, c'est mieux. Ça. Là, on a rectifié. Heureusement qu'on a rectifié.
Et pour lui donner son vrai nom, le Mutsvane Kakuri, parce qu'il y a deux Mutsvane.
Éric Rivère.
Alors, ça, c'est le deuxième cépage blanc. La Géorgie produit plus de blanc que de rouge. Hein, c'est 70% de blanc. Donc, le Mutsvane Kakuri, ça veut dire le vert de Kakati. Ça, c'est la région que j'ai visitée. Donc, c'est un cépage qui a une couleur très, très verte à l'extérieur, un peu comme le Chenin blanc ou le Riesling, par exemple. Donc, c'est un très vieux cépage. Les premières mentions dateraient du 5e siècle. Hein. Pas moins que ça. C'est vif, c'est fruité, c'est très versatile parce qu'on le vinifie soit en sec, soit en liquoreux, soit en bulle. J'ai goûté de très bonnes bulles avec ce cépage. On le trouve aussi dans toute la zone, l'Ukraine, la Russie, la Moldavie et l'Arménie. Et puis on le vinifie également en cuivrée. Alors un autre cépage blanc très intéressant, c'est le plus planté en Géorgie de tous les cépages, le Rakatsiteli. Regarde, Citelli, vous retenez bien ce nom, Alain Marty, parce que je vais vous poser des questions après.
C'est noté.
C'est aussi très versatile, c'est aussi très vieux. Ça signifie bois rouge, parce que les tiges sont rouges. Même les bois de l'année est rouge, alors que la feuille est verte. Et ça conserve beaucoup d'acidité. Donc j'ai goûté de très bons vins de ces trois cépages-là.
Merci beaucoup, David Cabot. Nous marquons une dernière pause, et ensuite retour chez Nicolas à Paris pour parler de Londres, et notamment d'un super club de dégustation de vins.
Alain Marty sur BFM Business.
Retour au bar à vin restaurant Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec le Vino Quiz et la charmante, toujours charmante d'ailleurs, Célia de la Maison du Whisky.
Alors, je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club.
Alors, la semaine dernière, c'était quoi ?
La question était, dans quelle région Frédéric Berne, le lauréat du concours Vignerion, Vigneron et Terroir, s'est-il installé ?
A.
Languedoc.
B.
Alsace.
C.
Beaujolais.
Et.
La réponse était la réponse C.
Alors cette semaine.
Donc cette semaine, la nouvelle question est, quelle couleur de vin a-t-on le droit de produire en Alsace Pinot Noir ? La réponse A, rouge et blanc. La réponse B, blanc et rosé. Ou la réponse C, rouge et rosé.
C'est pas facile, Philippe Forbach, cette semaine. Hein.
Ça fait bien être attentif.
Alors, comment on fait pour répondre ?
Alors, pour répondre et gagner un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club, vous pouvez envoyer dès maintenant votre réponse à l'adresse mail invino@vinojeux.com. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup, Céliane du BFM. Retrouve pour son grand bonheur et plaisir l'excellent Éric Rivière, journaliste, qui revient de Londres. Voilà. Avec une belle moustache, une bonne tête, et pour avoir dégusté des choses sympas dans un club privé.
Justement, c'est là où j'ai découvert l'atmosphère feutrée et cosy d'un club anglais privé, d'un dévoué à la dive bouteille. Ce club se nomme 67 Palmal, ce qui est tout simplement son adresse dans le quartier UP St. James, tout près du palace de Buckingham. God save the wine pourrait être sa devise. J'étais invité par un membre, le journaliste britannique Matthew Jukes, pour un déjeuner, et j'ai pu rencontrer le fondateur, Grant Ashton. C'est lui qui a fondé ce club. Il venait bien sûr du milieu de finance. Avec des amis, ils ont une idée d'un club, un vrai club privé. Donc, il faut être membre. Ils ont lancé le recrutement en mai 2014, et un an plus tard, ils avaient déjà 1600 membres. Donc, ils ont arrêté. Maintenant, il y a une liste d'attente.
Et combien ça coûte pour intégrer sur le club?
Et justement, c'est pas si cher que ça. Il faut payer d'abord 1000 pounds, 1000 livres, qui est environ 1300 euros, pour devenir membre, mais il faut être d'abord recommandé. Ensuite, si on est résident de Londres, on paye chaque année 1000 livres. Si on habite en dehors de Londres, c'est 500 livres par an. Si on habite à Paris ou ailleurs, à l'étranger, c'est 250 livres seulement. Déjà, c'est au who's who du monde du vin à Londres et ailleurs qui est devenu membre. C'est vraiment très extraordinaire. Le club a le lieu même quand même, c'est multitâche. C'est ouvert tous les jours et toute la journée à partir de 8 du matin. Le matin, c'est un café, c'est un bar à vin, c'est un restaurant midi et soir. Il y a des salles de dégustation qui peuvent être louées par les professionnels pour dégustation. C'est un endroit vraiment remarquable. Ils ont actuellement 2000 vins, dont 500 par verre, avec bien sûr le Coravin, pour ne pas déboucher les bouteilles. Hein.
Qu'est-ce que c'est, Coravin, vous dites?
C'est un système pour servir le vin sans déboucher la bouteille.
On passe une espèce d'aiguille à travers le bouchon.
Et ça n'altère en aucun cas la qualité.
Non, parce qu'on injecte parallèlement un peu de gaz inerte, c'est de l'argonne.
Bon, c'est formidable ce que vous racontez là, Eric.
Oui, c'est de la sélection des vins, et on peut boire des très grands vins par le verre, justement.
Et les prix sont raisonnables ou pas?
Les prix sont raisonnables. Par exemple, on a pris un Sassicaia 98.
Sassicaia, vous nous rappelez un peu l'origine de ce
c'est
vin?
C'est un des plus grands vins Toscane, ce qu'on appelle les Super Toscane, qui est issu des cépages bordelais, mais qui est le vin le plus culte d'Italie aujourd'hui.
C'est le Petrus italien.
Si on veut. Alors, c'était dans les 18 euros le verre. Hein. Donc,
ah, mais c'est
vraiment,
ça.
Vraiment
c'est
des choses extraordinaires. Il faut savoir aussi que les membres peuvent stocker leur propre collection dans le club. Ils payent quand même 20 livres comme droit de bouchon. Mais vraiment, je vous recommande, mais il faut connaître quelqu'un pour y accéder.
Pour être parrainé, quoi. Allez, on réagit sur ce sujet. Pascal Chevalier, vous, par exemple, est-ce que ça vous intéresserait, si vous étiez londonien, d'adhérer à ce genre de club pour se retrouver entre initiés, goûter des bons vins, être sympa? Il y a des filles et des garçons, ou c'est que
les... Les deux, en fait, en entrant pour le déjeuner, j'ai croisé Nicole Rollet, qui est justement un domaine dans le Ventoux, qui s'appelle Chêne Bleu, était un des premiers membres de ce club, parce qu'il passe beaucoup de temps à Londres, parce que son mari est dans les finances.
Pascal Chevalier, en tant que patron d'une belle entreprise à River Media, ça vous tenterait ça ou pas dans l'absolu?
Bah oui, quand on est amoureux du vin, on fait partie de pas mal de clubs. Alors on va dire qu'il y en a des clubs un peu officiels, assez nombreux, etc. Il y en a de nombreux sur Paris, fort sympathiques. Et puis après, il y a beaucoup de soirées entre copains dans lesquelles c'est tout comme un club, mais finalement, on peut largement déborder.
Sylvia, ça existe dans le whisky, ça ou pas?
Oui, des clubs tout à fait, des clubs de dégustation et des clubs d'échange.
Mais avec un lieu physique aussi?
Alors, pas que je sache à Paris, à la Maison du Whisky, bien sûr. Mais il y a des clubs fondés par des amateurs, je n'en connais pas.
Ah, à découvrir, David Cobold.
Qu'est-ce à faire?
Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des choses comme ça à Paris. Je trouve que c'est une très bonne idée. Alors, ce club est juste à côté du club dont a appartenu mon père, mon frère et mon oncle, qui est White's, mais qui est réservé à des mâles uniquement.
Des mâles, ah, des garçons.
Ce n'est pas le cas des 67 par mâles. Hein.
Donc les femelles ne sont pas acceptées. Quoi.
Non, mais tant mieux que ça change.
Très bien. Alors vous qui êtes un mâle, Philippe Aubrac, un mâle viril, les gouttes barbes là.
C'est très anglo-saxon quand même, l'esprit du club comme ça. À Paris, il y a des clubs, l'automobile club, l'interallier, enfin différentes choses. Où les gens se réunissent, le jockey club, exactement. Où les gens se réunissent avec différents thèmes, mais centré autour du vin tel que c'est le cas là, malheureusement ça n'existe pas et c'est un petit peu dommage.
C'est une bonne
mais
idée.
Voilà. J'ai vu un peu l'équivalent, mais en même temps c'est aussi une tradition anglo-saxonne à Hong Kong par exemple.
Oui.
Et récemment à Shanghai où j'étais invité pareil dans un club extraordinaire dans le quartier français de Shanghai où il y a au rez-de-chaussée une sorte de bar à vin, dégustation, on peut faire le petit déjeuner jusque prendre un verre, etc.
Ouais, c'est
premier étage un restaurant un peu plus gastronomique alors qu'en bas c'est un petit peu plus casse-croûte et en sous-sol une cave juste extraordinaire dans lequel pour chacun des membres il y a un caveau plus ou moins grand en fonction de la quantité de vin qu'ils ont à stocker avec des vins extraordinaires, c'est-à-dire des magnums des plus grands vins qui soient, de la Romanée Conti passant par le Petrus ou le Ça, c'est qu'ailleurs.
Ça, c'est Hong Kong.
Ça, j'ai vu ça à Shanghai.
Shanghai.
Mais il y a l'équivalent Hong Kong également Hong Kong. De ce club qui est
un très bon club en Europe à Luxembourg, le cercle Münster, où il y a un petit bouquin qui est chaque année. Et les membres peuvent aussi acheter, donc, les différents vins. Et ils ont une carte des vins, à mon avis, il y a au moins 1000 références aussi, quoi.
Ça se développe. Pour élargir la collection des vins dans le 67 Parlement, les membres vendent le propre vin à Grant lui-même, ah oui. qu'il a intégré dans la collection. C'est comme ça qu'il y a eu des Magnum de Lafite 47.
On quitte les clubs privés bizarres anglais, non, je plaisante, tout à fait avouable, pour parler d'un sujet majeur dans l'histoire du vin, l'étiquette, Eric.
L'étiquette. Donc, dans un club, il faut avoir un sens de l'étiquette, forcément. Et justement, quand j'étais au 67 Palmal, pendant le déjeuner, le propriétaire Grant est passé avec un grand format d'un vin culte de la Californie qui s'appelle Ton Pi 95, réalisé par un producteur iconoclaste qui s'appelle Sine Qua Non, mais en fait c'est une marque créée par Manfred Krankel, un autrichien qui est arrivé à Los Angeles en 1980 comme restaurateur mais et directeur du vin de ce restaurant. Mais par la suite, il s'est lancé dans sa propre production, uniquement dans un premier temps avec les cépages du Rhône, mais dans une région entre Los Angeles et Santa Barbara qui s'appelle le comté de Ventura. Très vite, ces vins sont devenus très cultes et il se trouve que pour lui, il n'y a pas de recette. Chaque année, il fait des assemblages et des provenances de raisins différents. Et donc, chaque vin est singulier et distinctif. Et pour assumer ce parti pris, chaque vin sort dans une bouteille unique avec une étiquette conçue et dessinée par lui-même, qui est en forme d'œuvre d'art. Et les vins sont devenus cultes autant pour le contenant
que le contenu.
Et c'est ça qui est un peu remarquable. Si vous êtes à Londres, il y a même un magasin, Hedonism Wine, les vins hédonistes, tenu par un russe milliardaire, qui est très fâché avec Poutine d'ailleurs. Et lui, il a même une salle dédiée au vin de Manfred Krankel, comme une chapelle dévouée à cet artisan artiste.
Allez, on réagit. Célia d'abord, honneur aux femmes, David Gumbel.
Alors, je rajoute sur Hedonism, qui a une des plus belles collections de whisky.
Ah oui, aussi.
À Londres, ouais, une très très belle collection sur toutes les anciennes versions des grandes distilleries comme Lagavulin, Nordbeg. J'ai jamais vu, il y a des whiskies des années 40, des whiskies.
Pour
des
vous, c'est la, je vais dire la même.
Le magasin est très très beau. Très beau. Un rez-de-chaussée magnifique et un sous-sol complètement artistique.
Bon, deux bonnes raisons pour y aller. David Cobol.
Je vais revenir sur le cas de Sine Qua Non parce que c'est vraiment un cas exceptionnel dans le marketing du vin où il n'y a pas, en dehors du nom, il n'y a pas de création de marque sur le plan identitaire puisque chaque année, chaque vin est différent. Et les étiquettes sont d'une créativité graphique extraordinaire. Je trouve que c'est parmi les plus belles, sinon les plus belles. Ils ont même publié, Eric a devant lui un livre qui fait la collection d'une partie des étiquettes. C'est absolument extraordinaire sur le plan du graphisme. C'est un très grand graphiste, ce bonhomme.
Et les vins,
aussi, les vins sont magnifiques.
Ça change un peu de Mouton Rothschild, quand même, Philippe Orbach.
Oui, mais c'est très bon aussi.
C'est un peu plus moderne.
Hein. Il a lancé un phénomène, d'ailleurs, lui, les Rhone Rangers, c'est-à-dire que les gens qui s'intéressent exactement aux cépages du Rhône. Là, c'était du Grenache, on peut avoir des Syrah, des Viognier. On fait vraiment les cépages identitaires de la vallée du Rhône implantés là-bas du côté de Santa Barbara.
Vous êtes sensible, Pascal Chevalier, en tant qu'amateur de vin, à l'étiquette ou pas? Franchement, dites-nous, vous êtes un professionnel de la communication aussi.
Alors, intéressant justement, c'est d'avoir un peu de rupture. Alors c'est, je pense, si on ramène sur des vins français, à des vins de chez Gangloff par exemple. Lorsque vous regardez l'étiquette, ça fait plutôt penser à un tableau de peinture avec des femmes plutôt dénudées, etc. Donc c'est juste différent. Donc forcément, on s'en souvient. Si en plus le vin est bon, forcément c'est
super. S'il n'est pas bon, on s'en souvient quand même.
Voilà. Oui. Non, mais c'est le cas pour Gangloff. Donc c'est vrai que le fait que l'étiquette soit un peu différente plutôt que l'étiquette un peu classique, ça c'est vraiment un plus.
C'est un plus. David Cabol, ça fait vendre ou pas? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut vendre plus cher quand on délire sur l'étiquette?
Alors, est-ce qu'on peut vendre plus cher? Je pense qu'il faut, comme toujours, une combinaison de facteurs. L'étiquette, ça fait partie, mais il faut que le produit soit très bon et différent aussi. Mais je pense que l'étiquette fait vendre, même malgré soi. Après, il y a différentes sensibilités sur le plan du graphisme et de l'esthétique en général. Il y a des gens qui aiment des choses classiques, des gens qui aiment des choses modernes. Mais l'étiquette fait vendre indéniablement.
Eric?
Il y a un dicton dans le milieu de marketing, surtout dans la réunion alimentaire. Les gens achètent avec les yeux. Donc, c'est important, l'aspect
visuel. Le premier
visuel.
Contact, c'est visuel.
J'ai travaillé pendant des années dans une école des arts graphiques, Gobelin, donc je suis très sensible à ça. Et même si ce qui compte le plus pour moi, c'est ce qu'il y a dans la bouteille, j'aime cette présentation des vins de Sine Qua Non, qui sont remarquables.
C'est étonnant, en tout cas. Et Célia, dans le whisky, il y a autant d'originalité sur l'étiquette ou c'est plus sobre?
Ah oui, les producteurs s'y donnent vraiment à cœur joie dans le whisky.
Ils se lâchent un peu aussi.
Notamment les embouteilleurs indépendants. On a un petit embouteilleur qui s'appelle That Boutique E Company. Ce sont des jeunes qui embouteillent des whiskies un petit peu rares et qui font toutes les étiquettes, ce sont des cartoons.
Philippe Forbach, dans le vin, c'est vrai que, bon, Pascal Chevalier en parlait, c'est souvent plomb-plomb, c'est château 2, même quand il n'y a pas de château, c'est 2
mètres 2. En France, c'est plomb-plomb.
En France, c'est une tradition, on n'a pas envie de trop changer, on reste dans une certaine rigueur historique. Mais bon, l'un des pionniers, c'est effectivement Motor Rothschild. Qui a créé ces étiquettes-là, mais Château Siran également, Margaux, enfin, il y a différents exemples d'étiquettes qui sont vraiment remarquées parce qu'elles sont différentes des autres.
Et les Italiens ont été très, très novateurs en Europe.
Merci à tous. Fin de ce numéro 605 d'Invino BFM. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de BFM Business. On se retrouve en public et délocalisé chez Nicolas à Paris, place de la Madeleine, samedi à 13h et dimanche à 16h. D'ici là, bonne suite de week-end sur BFM Business. Restez fidèles à notre antenne et surtout respectez la plus grande démodération.
BFM Business, week-end.